On va commencer Bezrat Hashem le chapitre 39. Je croyais pas qu'on allait commencer aujourd'hui le chapitre 39, je croyais qu'on allait commencer, on est terminé le 38, mais c'est bien, le 39 c'est un très très beau chapitre. Avant de commencer le chapitre 39, dans lequel on va beaucoup parler des Olamot, des sphères célestes, c'est avec nous M. Akos, M. Cohen.
On y va.
Bah, il faut s'accrocher aujourd'hui. Hein.
Allez, quelle page ?
39, chapitre 39.
182.
Alors, avant de commencer à expliquer ce chapitre 39 dans lequel on va parler des sphères célestes, pour essayer de comprendre les mitzvot, quelles mitzvot touchent à quelles sphères célestes, je voudrais d'abord faire une introduction qui va peut-être durer, un quart d'heure, une demi-heure, je sais pas le temps que ça va durer. Une introduction sur ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Seder Ishtalchelut. Si je traduis ça littéralement, ça nous donne l'ordre d'enchaînement. Alors on va expliquer, vous inquiétez pas.
Non.
L'ordre d'enchaînement. Enchaînement, vous savez l'enchaînement, enchaînement.
Ouais.
Donc ça veut dire en fait l'ordre comment Dieu a créé le monde. Le monde s'est pas créé comme ça en un coup. Il y a eu un ordre d'enchaînement. C'est-à-dire qu'il y a eu une progression. Je parle pas de l'évolution. Progression, ça veut dire que à Kadosh Baruch Hu, pour passer du statut, du stade spirituel au stade matériel, il y a eu plusieurs étapes. De façon générale, dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, dans le Zohar, on parle de quatre mondes. Après, je vais expliquer comment ces quatre mondes sont scindés en des myriades de niveaux, mais en général, il y a quatre mondes. Quatre mondes qui sont quatre étapes pour passer du spirituel au matériel. Les quatre étapes sont Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Je vais traduire en français, on va expliquer évidemment. Atzilut, c'est le monde de l'émanation. Beria, c'est le monde de la création. Yetzira, c'est le monde de la formation. Et Asiya, c'est le monde de l'action. Alors évidemment, on va donner des exemples. Je vais vous donner un exemple concret. Imaginons par exemple, je veux créer un produit. Ok ? Avant de créer le produit, c'est-à-dire je vais inventer un nouveau concept. Un nouveau concept. En général, le concept démarre jamais directement à la première étape. C'est pas directement tout de suite, c'est fini, on s'est lancé, on est passé à l'action, on a envoyé en Chine. Avant d'envoyer la production en Chine, il y a plusieurs étapes. Zach. D'abord, il y a l'étape de l'émanation.
Moi, je
la bois. Ouais, je aujourd'hui, je fais les chaïms sur le bamba.
C'est pour moi. Ma bouteille directe, hein.
Non, il a raison. À Jérusalem, là, ils sont en train de faire le Michelet maintenant.
Ah,
ouais.
Bon.
Ah ouais.
Alors, on a la cabane.
Ah ben alors, oui, il y avait la fête encore.
Mais on rajoute la cabane.
Là, ce soir, maintenant, au moment où je vous parle, à Jérusalem, ils sont en train de faire le Michelet.
Comme l'a dit, alors.
Et toute la nuit, ils le font différemment de nous, en fait.
Ah, c'est une autre question.
Alors,
donc, je disais que dans la Kabbalah, bonsoir, dans la Kabbalah, on explique qu'il y a quatre Olamot. Pour passer du spirituel au matériel, il y a quatre étapes. Atzilut, Beria, Yetzira, Asiya. Donc il y a le monde de l'émanation, le monde de la création, le monde de la formation et le monde de l'action. Et je t'en donne un exemple. Imaginons par exemple quelqu'un qui va inventer un nouveau concept. Bon, avant de passer à l'action, ça prend beaucoup de temps. D'abord, il y a une première étape, c'est l'émanation. C'est une idée qui émane comme ça, c'est un grand flou. Après, il passe à l'étape suivante, dans laquelle Beria, on va commencer à créer. Ça veut dire que là, c'est plus une idée qui reste au stade de l'émanation. On va commencer à créer. Et après, Yetzira, on va commencer à former la chose. Et après seulement, Asiya, on va passer à l'action. D'accord ? La vérité, c'est qu'on a un petit peu de mal à comprendre cette notion. Puisque nous, dans le monde dans lequel on vit, on ne crée pas. On fait que façonner. Je vous donne un exemple. Prenez cette bouteille. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette bouteille ?
Une mojito.
7-Up. D'où vient le 7-Up ? Comment on a fait le 7-Up ? Comment on l'a fait ?
De l'eau de source, des arômes.
On a pris de l'eau,
voilà.
Et on a mis des arômes, du gaz. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'on a créé une nouvelle boisson ?
Non,
c'est pas une création.
Peut-être
le concept, non, même pas. Peut-être le concept, c'est une création, et encore. On n'a rien créé, on a façonné. La matière première était là, moi je l'ai façonnée. Prenez la table que j'ai devant moi. En quelle matière elle est cette table ? Du bois. Par le pied, bon, la table c'est du bois. D'où, comment on a fait cette table en bois ?
Un concept.
D'accord? On a pris un arbre, on a coupé, on a pris du bois, on a récupéré des copeaux, etc. Voilà, bon. Et on a fait une table. Est-ce que je peux dire qu'on a créé une table? Le menuisier n'a pas créé une table, il a façonné une table. Ça veut dire que la notion de création est très difficile à retrouver dans notre monde. Très difficile, à part pour un bébé.
Mais la première table, c'est une création.
Non, jamais. Il n'y a pas de création, il n'y a que Dieu qui crée.
C'est une transformation.
On transforme. Tout est une transformation. Tout ce que tu as autour de toi, c'est une transformation. Ça, c'était du pétrole qu'on a transformé en verre. D'accord? Ça, c'est pareil. C'est un cornichon. C'est pareil. Tout est une transformation. Il n'y a pas de création.
Non, le cornichon en soi.
C'est pas une création.
C'est pas une création, c'est dans la nature.
Ça
fait partie de la nature.
Mais c'est une transformation.
Par contre, ça, c'est du plastoc. Ça n'existe pas dans la nature.
Si, ça existe.
On a eu le concept de faire d'où il sort.
Rien ne se perd, rien ne se crée.
Non mais bon. Ça pousse pas comme dans un arbre.
Ah oui, non mais j'ai compris. Non mais j'ai pas dit que ça poussait dans un arbre. J'ai pas dit que c'était un arbre. Vous avez ici une bouteille qui a une jolie forme, bouteille comme ça. Oui. C'est du pétrole. Alors, il y a eu un artisan qui a pris ce pétrole, qui l'a façonné, qui l'a travaillé, qui en a fait une bouteille verte.
Et pour un enfant, alors on appelle ça comment?
Pour un enfant, on parle presque de création. C'est pas une création parce que ça vient pas de nulle part. C'est pas ex nihilo. Il y a toujours un début. Donc c'est une sorte de transformation, mais c'est un peu plus fort. Ok? Ce que je vous montrais par ici, c'est que lorsque Dieu il a créé le monde, on a un vrai problème. C'est que Dieu, il veut passer du spirituel au matériel.
Il y a un avion. C'est ex nihilo.
Tout ce que Dieu... Pareil, l'avion, c'est pas ex nihilo. Pourquoi c'est ex nihilo?
Il n'y a rien dans la nature, il n'y a pas de transformation dans l'avion.
Toutes les matières qu'il y a dans l'avion, tu prends du fer, tu prends tout ce que tu as, d'accord, c'est une transformation.
C'est un assemblage de matières qui existent dans la nature, qui ensemble font un...
Bien sûr. Exactement. Mais ça veut dire qu'on est seulement dans la formation. Il y a quatre étapes. L'émanation, la création, la formation et l'action. Ça veut dire que nous, les hommes, on arrive le maximum, on arrive à monter... C'est au stade, avant l'action, on arrive à monter au stade de la formation. Former, c'est-à-dire prendre, donner une forme à un objet. Mais création, est-ce qu'on peut créer quelque chose? On peut pas créer. L'homme est incapable de créer. Dieu est capable de créer. Et donc là, Dieu, comme il est capable de créer, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il crée...
Il crée à partir de rien.
Il crée à partir de rien. Et donc là, on a les fameuses quatre étapes. On a le monde de Hatsilut, dans lequel tout est encore émanation, c'est-à-dire qu'il n'y a rien encore, tout est abstrait. Après, progressivement, il crée... la matière, après il façonne la matière, et après on passe à l'action. L'action, c'est le monde concret dans lequel on vit.
Création, créateur, c'est pas la bonne.
Pour les hommes, c'est pas bon.
Non,
on appelle ça un créateur, parce que bon, il a créé, parce qu'il a innové un nouveau concept.
Mais c'est
une sorte d'abus de langage, c'est pas une création.
D'accord.
Il a créé un concept, peut-être. Le concept est nouveau.
D'accord.
Il a pris de la ferraille, il en a fait un avion. Comme son exemple. D'accord. Mais la ferraille, en soi, c'est pas nouveau. Il a pris une matière qui existait et il a travaillé. Tout est là en vérité. Tout est là. C'est une question d'idées, d'accord, et d'avoir un esprit ingénieux. Ok. Donc ça c'est un premier point que je vais vous expliquer. C'est-à-dire que déjà, Kadosh Baruch Hu, lorsqu'il descend dans ce monde, il passe par quatre étapes. Après, dans chacune de ces quatre étapes, on peut les scinder, mais c'est très important à comprendre ça. Autre chose que je voulais vous expliquer en tant qu'introduction avant le cours d'aujourd'hui, chapitre 39. C'est expliquer la différence entre Orot et Kelim. Alors, je vais traduire. Or, c'est la lumière. Kelim, c'est les ustensiles. Pour donner un langage un peu plus adapté, Or, c'est l'énergie. Keli, c'est ce qui contient l'énergie. D'accord? Donc, on a l'énergie et la matière. On retrouve ça beaucoup en physique. Je vais vous donner un exemple. Prenez par exemple la lumière. Vous voyez la lumière qui est ici, là? Qu'est-ce qu'on a dans cette lumière? On a une lumière et on a quelque chose qui contient la lumière. Qu'est-ce qui contient la lumière? C'est le néon. Enfin, le néon, c'est un LED. Mais ça, c'est un... Donc, on a une dalle qui est en plastique, qui est en métal, qui contient quelque chose. Et après, on a une lumière. La lumière, c'est le contenant, c'est ce qui est à l'intérieur de cette chose-là. Pareil, prenons par exemple cette bouteille. Qu'est-ce que j'ai dans cette bouteille? Cette bouteille, j'ai or vekeli. J'ai une lumière et j'ai un réceptacle. La lumière, ça veut dire ce qui m'intéresse, l'énergie. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est le 7-Up. D'accord? Et le réceptacle, c'est la bouteille. Chaque chose qu'il y a dans le monde, n'importe quelle chose que vous prenez, par exemple, prenez mon corps, moi-même, ma personne, moi, c'est une lumière, j'espère, d'accord? Et le réceptacle, c'est mon corps.
Ouais.
Chaque chose, vous prenez n'importe quelle chose qui est autour de vous, un corps humain, un corps, tout ce que vous voulez, il y a toujours une idée, un concept, donc ça veut dire une énergie, et un contenant, quelque chose qui contient l'énergie. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, or et keli. Alors, il y a toujours un dosage, c'est-à-dire qu'il y a des éléments dans lesquels il y a plus de or que de keli, et d'autres éléments.
Or, c'est la
lumière.
Or, c'est la neshama.
Non, c'est pas forcément la neshama, c'est la lumière. Ça C'est-à-dire, c'est l'âme de la chose. Et Kelly, c'est le réceptacle de la chose. Et en fait, ce que je suis en train d'expliquer, c'est une question de dosage après. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont très peu de or et beaucoup de Kelly. J'ai expliqué. Il y a d'autres qui ont beaucoup de Kelly et très peu de or. L'exemple est très simple. Prenez par exemple quelqu'un qui est très très intelligent, mais qui n'arrive pas à contenir son intelligence. Donc là, on parle d'une personne. Il peut être fou. Ça peut être quelqu'un qui est fou. Enfin, j'en connais des gens comme ça. Ils sont tellement intelligents qu'ils sont fous. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est fou? Parce qu'il a tellement de lumière. Il n'a pas de Kelly, il n'a pas de réceptacle adéquat pour contenir cette lumière. Donc du coup, ça tient pas. Ça tient pas.
Il n'arrive pas à canaliser.
D'un autre côté, il y a des gens qui ont beaucoup de Kelly, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de réceptacle, mais il n'y a pas beaucoup de lumière.
Il n'y a rien dedans.
Et c'est vrai. Et donc c'est une question de dosage. Le or et le Kelly. Dans chaque chose qui est autour de nous, il y a toujours un dosage entre le or et le Kelly. C'est pour ça, par exemple, lorsqu'on va demander une bracha à un tzaddik, on lui demande donc une lumière. Et qu'est-ce que dit le tzaddik? Le tzaddik, il va te dire, pour que la bracha, elle arrive, il faut que tu fasses un Kelly, un réceptacle. Parce que s'il envoie la bracha mais que t'es pas un réceptacle, la bracha ne peut pas tenir. Il faut toujours un réceptacle. Par exemple, imaginez que la pluie, elle tombe, mais qu'on n'a pas de réceptacle pour réceptionner la pluie, ben la pluie, elle tombe, elle est perdue. Si par contre, j'ai de quoi récupérer, imagine un distributeur qui sort des billets, mais t'as pas de porte-monnaie, t'as rien de quoi prendre les billets. Comment tu vas en prendre avec ta main déjà? T'as pas de sac, t'as rien. Non, on peut pas. Imagine-toi un cambrioleur, il est entré quelque part et il a oublié son sac. Comment il va prendre déjà? Ah, mais c'est un exemple, d'accord? Ce que je vous montrais par ici, c'est qu'il y a cette notion toujours de or et Kelly. Regardez, par exemple là. Si j'avais pas le contenant, combien de Sevanov j'aurais pu attraper? Avec ma main? Rien! Pas grand chose! Avec ça, je peux en attraper 1,5 litre, je peux attraper 10 litres, 100 litres, 50 litres, etc. Or et Kelly. Chaque chose qui est dans le monde, or et Kelly. Alors, ce qui est intéressant aussi, et c'est ça, et vous allez comprendre pourquoi je vous en parle dans la suite du cours, c'est que très souvent, le Kelly prend la forme du or. J'ai expliqué ce que je veux dire, ou le contraire. Ah, juste avant, j'ai besoin de la bouteille encore, 2 secondes. Très souvent, c'est un très bon exemple cette bouteille, très souvent,
moi aussi, j'ai un
le contenant prend la forme du contenu, ou le contenu prend la forme du contenant. Exemple, si je vous pose la question, l'eau qui est à l'intérieur de cette bouteille est de quelle couleur?
L'eau transparente.
Très bien, mais là, vous croyez quoi?
C'est la bouteille qui est verte.
C'est la bouteille,
alors. Très bien, mais là, quand vous la voyez,
elle est verte.
Donc là, on a une couleur verte. Donc ça veut dire que tu demandes à un enfant qui ne connaît pas, tu lui dis quelle couleur, il va te dire vert. Pourtant l'eau, elle est devant moi, 7-Up, il n'est pas vert. Donc là c'est un exemple, une situation, c'est très basique, très primaire, dans lequel on a un contenant qui quelque part a pris la forme du contenu. Enfin pardon, le contenu qui a pris la forme du contenant. C'est un exemple. C'est-à-dire que là j'ai le contenu, c'est le 7-Up, qui a pris quelque part la forme. Bon là je suis gentil parce que là en vérité il n'a pas changé de couleur. Mais imaginez qu'à l'intérieur il y avait une couleur vraiment, et que ça change de couleur. Voilà. Je vous donne un autre exemple. Imaginez par exemple, je prends des lunettes avec un film vert. Et si je vois David, de quelle couleur il sera David? Il sera vert. Pourtant, il n'est pas vert. Pourquoi? Parce qu'en fait, mes lunettes, c'est un petit peu comme le réceptacle. Et donc, le réceptacle va donner une couleur à quelque chose. Il va donner une couleur à la chose. Alors, pourquoi je vous explique ça? Pour expliquer la chose suivante, que dans la Kabbalah, on explique que très souvent, lorsqu'une lumière va intégrer un objet, elle va prendre une certaine idée. Et je veux donner un exemple concret. Imaginez par exemple que je vais expliquer une idée. Nous sommes maintenant, voilà, nous sommes plus de 10 personnes autour de cette table, bonsoir, d'accord? Imaginez que je vais expliquer une idée, la même idée, une seule idée, je vais expliquer. Et vous allez être 10 personnes à écouter l'idée. Donc on a une lumière, c'est l'idée que je vous donne, et le réceptacle, c'est vous. Le réceptacle, c'est votre cerveau qui essaie de retenir et de comprendre ce que je viens de vous dire. Eh bien, chacun de vous comprendra différemment ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que la lumière prendra la couleur du réceptacle dans lequel elle est rentrée. Donc moi, je vous donne une idée. L'idée que je vous donne, c'est une lumière. Cette idée, elle rentre dans votre tête et elle prend votre couleur. C'est-à-dire qu'après, si maintenant, après le cours, je demandais à quelqu'un, répète-moi une idée qu'on explique aujourd'hui, personne ne me répétera la même chose. Parce que chacun aura sa couleur. Ça veut dire que ce que je vous montrais par ici, c'est que dans cette symbiose qu'il y a entre l'énergie et la matière, lorsque l'énergie rencontre la matière, forcément, chacun influe sur l'autre. L'énergie influe sur la matière, et la matière influe sur l'énergie. Donc là, dans notre exemple, l'énergie, c'est l'idée que je vous donne, la matière, c'est votre cerveau. Et donc, forcément, l'énergie que je vous donne prendra la forme de votre matière. On est d'accord? C'est bon, David? Bon. Vous avez dit les Chaïms de Vivre ou pas?
C'est ce que Dieu recherche quelque part.
Alors, bien sûr.
La multiplication de nombre d'idées qu'on peut avoir.
Alors, justement. Alors, on a aussi, je vais vous donner encore d'autres exemples, parce qu'on a, j'ai encore pas mal de choses à expliquer dans l'introduction. C'est que, je vais vous donner un exemple. Un exemple pour montrer comment quelque part, quand la lumière descend vers un réceptacle, la lumière, il y a forcément un qui doit faire un pas vers l'autre. Exemple. Et là, vous allez, on va commencer à comprendre. Je vous ferai un résumé après. Imaginez, par exemple, que j'ai envie de jouer avec un enfant qui a un an. À quoi je joue avec lui? Hein? Bon. Et s'il font fonfon? D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Donc là, attendez, mais là, il y a un problème. C'est que là, donc lui, c'est le réceptacle, moi, c'est la lumière. J'essaye de l'amuser. Maintenant, je suis incapable de l'amuser avec ce qui m'amuse à moi. Parce que ce qui m'amuse à moi ne l'amuse pas.
On n'a pas la même pensée.
Donc, la lumière qui m'inspire à moi ne peut pas l'inspirer à lui. On est d'accord? Il ne comprend pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de faire descendre ma lumière à son niveau.
On va descendre la matière.
Donc, de faire descendre une lumière, ma lumière, c'est-à-dire mon intellect, au niveau du réceptacle. Et donc là, du coup, celui qui va m'entendre parler, il va entendre les vivants au fond, d'accord? Il va se dire, ah bah tiens, celui-là, il est un peu devenu un peu bête. Pas du tout, il est pas bête, au contraire. Il a fait descendre sa lumière au niveau du réceptacle. Parce que s'il n'y a pas un des deux qui fait le pas vers l'autre, ça ne peut pas marcher. Lorsque tu as une lumière, ça veut dire une lumière et un contenant qui ne sont pas compatibles, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est comme si des fois tu viens à un cours, imagine tu viens à un cours, on parle en chinois. Ça marche pas. Il y a une lumière, mais il n'y a pas de réceptacle. Donc ils sont pas compatibles. Même s'il fait un effort, ça marche pas. Donc il y a forcément un effort des deux côtés. Alors de la même façon, Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu veut créer le monde, c'est une très très grande lumière. Mais c'est une lumière qui est tellement puissante que si Akadosh Baruch Hu ne contracte pas cette lumière, comme moi je ferais avec un petit enfant, d'accord? Exactement. Si Dieu ne contracte pas sa lumière, on est incapable de la recevoir. On peut pas la recevoir. On explose. Ouais. C'est comme si, par exemple, je viens à un cours où je comprends rien du tout, tu comprends pas. Il t'a pas adapté. Imaginez, par exemple, que j'ai aucune connaissance en maths, et je vais aller directement à un cours d'un professeur très très élevé qui va parler en langage technique. Je vais rien comprendre. Pourquoi je vais rien comprendre? Parce que la lumière est trop puissante par rapport au réceptacle. Si, par contre, le professeur parle à des élèves avertis, là, la lumière est adaptée au réceptacle. C'est toujours une question de lumière et réceptacle. Tout est comme ça dans la vie. Alors, de la même façon. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut nous parler, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut créer ce monde, Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il veut nous envoyer de l'énergie comme il fait tout le temps, il est obligé constamment de réduire son énergie. Ce qu'on appelle en hébreu le tzimtzum. Voilà, Hazak. Ce qu'on appelle en hébreu le tzimtzum. Et c'est obligatoire. Donc là, vous voyez, j'ai développé que deux notions jusqu'à maintenant. Première notion qu'on a développée, c'est les quatre étapes lorsque Dieu crée le monde. Émanation, création, formation, action. On doit passer par ces quatre étapes. Parce qu'on peut pas, pour passer du spirituel au matériel, de l'abstrait au concret, il faut passer par ces quatre étapes. Émanation, création, formation, action. Maintenant, autre chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut constamment adapter l'énergie par rapport au réceptacle. Si un des deux est trop fort, ou pas assez fort, ça tient pas, ça marche pas. Or, en l'occurrence, est-ce que moi je peux être au niveau de Dieu? Est-ce que moi, je peux élargir mon réceptacle pour être au niveau de la lumière de Dieu? Je suis incapable. Donc, c'est lui qui est obligé de se réduire. C'est lui qui est obligé de se contracter pour faire en sorte qu'on vit dans un monde dans lequel Dieu est invisible. Justement, c'est le message de Pourim. On sort de Pourim. En Israël, c'est encore Pourim ce soir. Ils sont dans le Michel de Pourim. Ça veut dire que c'est ça le message de Pourim. Le message de Pourim, c'est qu'on te dit, Dieu est tellement, il se cache parce qu'il est obligé. S'il se cache pas, on tient pas, on explose. Tellement il se cache, que du coup, celui qui veut croire que Dieu n'y a pas Dieu dans ce monde, il peut croire. C'est vrai, il peut croire. Il n'y a rien qui le prouve. Mais il est obligé de faire ça, Kadosh Baruch Hu. Il est obligé de faire ça. Parce que s'il se montrait tel qu'il était, personne n'aurait pu tenir. On aurait explosé. C'est comme si tu prends un téléphone, regardez. Le téléphone, il a besoin d'une entrée 5 volts. Là, il y a du 220. Allez voir, si je branche directement, je prends un fil, je le branche directement d'ici au téléphone. Qu'est-ce qui se passe avec le téléphone? Il explose. Pourquoi il explose? Pourtant, qui peut le plus, peut le moins. Enfin, ça marche pas. Parce que le réceptacle n'est pas compatible avec 220. C'est trop puissant pour lui, donc il va exploser. Pareil, tu vas maintenant dans la centrale. C'est pas des 220 que t'as là-bas. Dan, il va nous dire.
C'est des 1 kilowatt.
Comment qu'il y a dans une centrale nucléaire?
On parle en mégawatts là-bas. On parle en mégawatts, c'est énorme. Donc on est obligé d'avoir entre la centrale un adaptateur, etc. Et on a comme ça plusieurs transfo. Si quelques petites allumettes arrivent là, elles arrivent là, etc. Voilà. Et là, je peux toucher quelque chose qui n'a que du 5 volts à l'intérieur. Ça, ça, c'est un exemple aussi. Or, Vekeli. C'est-à-dire, t'as une énergie qui doit être forcément contractée pour rentrer dans, pour rentrer dans un kit.
Oui, mais est-ce que c'est ça la raison pour laquelle elle se prend?
Il est obligé, bien sûr. Ça marche pas sinon. Ah, c'est impossible, c'est impossible. Sinon, si on donnait juste l'exemple d'un être humain, c'est comme si tu as un prof de maths qui parlait à un nourrisson avec des termes techniques. Il n'y a aucune chance qu'il comprenne. C'est juste un exemple. Maintenant, entre le prof de maths et l'être humain, on peut encore les comparer un petit peu, parce que c'est quand même les deux les êtres humains. Alors imagine-toi qu'entre nous et Dieu, on peut même pas nous comparer. Donc il est obligé de se réduire, de se contracter, pas réduire, contracter, c'est le mot qu'on va développer aujourd'hui. Ce qu'on appelle en hébreu le tzimtzum. D'accord ?
Juste une petite réflexion.
Oui.
C'est toujours l'émetteur qui...
On a vu dans... On a vu dans la Torah que... Que Dieu s'est révélé aux enfants d'Israël au travers des miracles, la sortie d'Égypte, tous les miracles qu'il y a eu. Ils ont vécu des
ils l'ont vu. Même un miracle. Alors, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est lorsque Dieu...
Mais parce qu'ils ont fauté, Dieu s'est retranché.
Ah non, je vais vous dire. Un miracle, c'est lorsque Dieu éclaire un petit peu. Et d'ailleurs, quand il y a un miracle, on est ébloui. Mais c'est un tout petit peu. Parce que s'il donne trop, on explose. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, c'est raconté à Gemara, à Rashi, etc., que lorsque Dieu a donné la Torah, à chaque commandement qu'il a donné, les deux premiers commandements, les Bnei Israël, ils mouraient instantanément. Il a donné deux aux Bnei Israël. Il a donné que deux, les autres, les Bnei Israël ne tenaient plus. Il a donné le premier commandement, les Juifs, à peine ils ont entendu la parole de Dieu, à part Moïse, qui lui était moitié Dieu, moitié humain, enfin moitié, voilà, moitié, d'accord, tous les autres sont morts tout de suite. Ils sont morts.
Par la parole.
Avec, juste par la parole de Dieu, qui est venue sans, parce que le corps humain est incapable. Le matériel ne peut pas tenir face à une force spirituelle tellement forte. C'est comme ton portable, il ne peut pas tenir, tu comprends? C'est un exemple. Il était incapable. Donc Dieu les a fait ressusciter deux fois. Deux fois. Et après le deuxième commandement, ils ont dit à Moïse Rabbeinu, ils ont dit, écoute, parle-toi avec Dieu, on est incapable d'entendre. C'est ce qui est écrit dans la paracha, dans la Torah, ça raconte dans la paracha des Varim.
On y était. Hein.
On y était. On était incapable de tenir. Incapable.
Mais Dieu savait qu'ils allaient. Dieu, c'est Dieu.
Regardez, combien de fois on a des exemples, et ça on en a connu beaucoup, des gens qui vont chez le rabbi, d'accord? Surtout à l'époque, on pouvait voir le rabbi. Vous savez que lorsque le rabbi distribuait le dollar le dimanche, il y avait tout le temps deux ou trois camions de Hatzala, c'est l'ambulance, il y en a toujours, qui étaient stationnés devant le 770. Ouais. Parce que tous les dimanches, lorsque le rabbi distribuait le dollar, il y avait des tels dévoilements. Quelqu'un, il vient juste demander un dollar, le rabbi, il sort pas, il sort une bracha pile de ce que le gars voulait demander, mais qu'il s'est même pas demandé.
Il y avait
plusieurs personnes qui s'évanouissaient.
Ah,
bah, bien sûr. Ouais. Parce que la lumière était trop forte.
Ouais.
C'est un malaise. Enfin, un malaise. Bon, après, il récupérait. Ouais. Ça veut dire, il y avait toujours deux, trois camions d'Atsala à côté qui étaient là. Des ambulances. Qui étaient là pour récupérer les gens. Et tu vas voir leur habit, t'as oublié même ce que tu veux dire, il te dit, bon, une bracha pour ton père, pour ta mère, ils auront ça dans ce...
Il dit, je sais pourquoi t'es venu.
Mais c'est filmé en plus, c'est les choses.
J'avais oublié, il a ton élève, et je sais pourquoi vous êtes venu.
Et là, il m'a raconté récemment. Il m'a dit, c'est un jeune homme. À cette époque, il avait 15 ans. Et lorsqu'il est parti à New York, son père, il lui a dit, n'oublie pas, mamie, elle est malade, tu demandes une grande bracha pour mamie, qu'elle ait une fois chez les mains, etc. Non, lui, il a attendu pendant des heures et des heures, parce que la queue pouvait durer des heures, il essaie de se rappeler, parce que ça durait 2-3 secondes, quoi. Il fallait très rapide. Et il se rappelait, qu'est-ce que je veux dire? Il m'a raconté, il m'a dit, dès que j'arrive devant le rabbi, tellement ébloui, il n'arrive pas à parler. Et le rabbi lui donne un premier dollar pour lui, et un deuxième dollar, il dit, ça c'est pour ta grand-mère, fois chez moi. Il dit, le rabbi m'a jamais vu, il sait pas qui je suis. C'est, logiquement, c'est impossible. Il a pas donné de lettres, il a pas donné de papier, il y a personne qui l'a présenté, il y a personne. Et il m'a dit, je me suis dit peut-être que je suis fou. Alors, je redemandais après avoir la vidéo, parce que pour ceux qui voulaient, pour voir la vidéo, après j'ai revu la vidéo, et j'ai dit, c'est un truc de malade, j'ai même pas parlé au rabbi, il me parle, il donne un dollar, il me tire fois chez les mains, et bon, bien sûr, il y a un miracle, bon, ça c'est évident, il n'y a pas besoin de le dire. Il y a un miracle après avec sa grand-mère, un truc, bon. Ça veut dire que c'est des choses extraordinaires. Pendant quelques minutes après, j'ai dû m'asseoir, quoi. La lumière était plus forte que le contenant. Le or était plus fort que le fil. Alors la vérité, après on va rentrer dans le texte. La vérité, c'est que Maïmonide explique que cette notion, comprendre le chemin qu'il y a à faire depuis Dieu jusqu'à chez nous, c'est quelque chose que le cerveau humain ne peut pas vraiment comprendre. On peut essayer de s'imaginer, mais on peut pas vraiment comprendre. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, notre cerveau humain, est limité à ce qu'on connaît. Ça veut dire que, avec quoi on réfléchit? On réfléchit avec des règles que Dieu a créées dans le monde. Par exemple, je vais, par exemple, vouloir faire des calculs. Bon, je fais un calcul, d'accord? Là, j'ai un bisley plus un. Un plus un, ça fait?
Deux.
D'où tu sais?
Deux.
Ah ben, d'où tu sais?
Non,
ah, parce qu'on a des... Donc, il y a un postulat. Il y a un postulat qui est 1 plus 1 est égal à 2. Mais qui a créé ce postulat?
C'est pas la preuve.
Ouais, j'ai pas dit que c'était la preuve.
Peut-être que 1 plus 1 est égal à 3.
Moi,
1
et 1 égale 2.
Ah, tu comprends? C'est-à-dire, là, déjà, quand je te dis 1 plus 1 est égal à 2, on est déjà dans l'action. C'est-à-dire, on est déjà, la création a déjà eu lieu.
Moi, je dis 5.
Maintenant, imagine-toi que ça même, c'est une création. C'est déjà une création, ça. Le fait qu'il y a un postulat, que 1 plus 1 est égal à 2, c'est des postulats, tout ça. Ça veut dire que Maïmonide dit, en vérité, un homme ne pourrait jamais comprendre la connaissance de Dieu, puisque notre connaissance elle-même est une créature divine. C'est-à-dire notre façon de réfléchir et ce qu'on a autour de nous, c'est ça même, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment tu veux essayer de comprendre l'Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. On peut pas comprendre l'Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est juste pour nous montrer, ce qu'on va développer aujourd'hui, Bezrat Hashem, que pour arriver à la création de notre monde, Akadosh Baruch Hu, il passe par des tzimtzumim, ça veut dire des contractations. Il se contracte. Chaque à la fin, on arrive à un niveau dans lequel on voit presque plus. Je terminerai avec un dernier exemple, après on va prendre le texte. Oui? Juste deux secondes, je vais vous donner un exemple. Je terminerai juste avec un exemple. Un exemple qui est souvent ramené en Kabbalah. En Kabbalah, on compare souvent le tzimtzum à un rideau. Imaginez, par exemple, il y a le soleil. Tape très fort. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je mets un rideau. On avait plusieurs rideaux. T'as un rideau comme ça. Un rideau comme ça, il occulte légèrement la lumière du soleil, mais la lumière, elle passe. Après, tu rajoutes dessus un autre rideau encore. Ça occulte encore plus. Et un troisième, et un quatrième, et un cinquième, et un dixième. Combien de rideaux il faut mettre pour qu'à la fin, on ne voit plus la lumière du soleil?
Il faut une sacrée tringle.
Il faut une bonne tringle, il faut un rideau occultant, vraiment occultant, qui est très lourd en général. D'accord? Ça veut dire que c'est compliqué. Bah, imaginez, c'est la même façon. Kadosh Baruch Hu, pour descendre vers nous, il est obligé de se cacher, au point que, quand je vois le bisli qui est devant moi, je ne vois pas que dedans il y a Dieu. Et pour arriver à ça, il a fallu se contracter plusieurs fois. Parce que si c'était pas contracté, c'est pas un bisli que j'aurais vu ici, c'est Dieu que j'aurais vu ici. Donc, j'aurais pas pu ni le toucher, ni le voir, ni le tenir. On aurait dépassé. Donc Dieu, il se contracte énormément pour arriver à ça. Hop. Maintenant qu'on a compris ça, voilà, on va prendre... Oui, la vérité, c'est qu'on aurait pu faire une introduction encore beaucoup plus longue. Mais on va avancer. Alors maintenant qu'on a expliqué ça, on va revenir au thème qu'on a développé dans le chapitre 38. Et là, vous allez comprendre pourquoi je vous ai parlé de tout ça. Dans le chapitre 38, on a commencé à parler de l'importance de la kavana d'une mitzvah. Vous vous rappelez, je vous avais prévenu que maintenant on va passer à une nouvelle phase. C'est-à-dire, autant jusqu'à maintenant, on n'arrête pas d'expliquer que l'important c'est l'action. Mais à la fin du chapitre 38, on a déjà commencé à expliquer que, concrètement, l'action n'est pas suffisante, il faut la kavana. Et là, rappelez-vous une idée qu'on avait dit. Et là, vous allez comprendre où je vais vous amener. On avait dit qu'une mitzvah sans kavana, c'est comme un corps sans âme. Ça vous dit quelque chose?
Oui.
Je viens d'expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce que je viens d'expliquer? Je viens d'expliquer que toute création qu'il y a dans le monde, il y a une symbiose entre le corps et l'âme. L'âme, c'est l'énergie, le corps, c'est le contenant. Si je fais une mitzvah sans kavana, c'est comme si j'avais un contenant sans contenu. Contenant sans contenu. Voilà. Non! La bouteille, c'est un 7-Up. La bouteille, sans le 7-Up. J'ai pas dit que ça sert à rien. Dis pas ce que j'ai pas dit.
Non, oui, t'as pas dit ça, mais on déduit ça. Sans quand vous êtes sans vide.
Ça veut dire, on a dit que concrètement, la mitzvah est faite. Même si tu fais une mitzvah sans kavana, la mitzvah est faite. Mais seulement, pour l'Almoura Zaka, dans ce chapitre, il veut t'expliquer l'importance de la kavana, l'ampleur de l'importance de la kavana. Il te dit, quand on parle de kavana, c'est pas de la blague. C'est pas on dit bon la kavana c'est un bonus pourquoi pas hein. C'est pas du style on t'a acheté une Rolex d'accord et on va t'expliquer que c'est une Rolex, ça a rien à voir, c'est beaucoup plus. La kavana, c'est ce qui donne la neshama, l'âme de la chose. Ça veut dire que si pour prendre un exemple pour Serge, c'est comme si t'as une carrosserie de Ferrari sans le moteur.
C'est pas mal.
Bon,
ça
a rien. Bon, tu peux dire j'ai une Ferrari quand même.
Ah ouais, parce que nous on l'a pas la preuve.
Hein?
C'est
pas qu'elle a un moteur. La Ferrari du salon qui te dit qu'elle a un moteur. Hein?
Des pédales.
Qui t'a dit qu'elle a un moteur? Tu l'as vu démarrer?
Des pédales.
Hein? Tu l'as vu démarrer?
Non.
Peut-être qu'elle a pas de moteur, peut-être qu'il marche pas.
Non, je démonte la clé.
Hein?
Parce que c'est plus facile d'avoir une carcasse
sans moteur. Exactement, raison.
Un moteur, bah non, c'est ça.
T'as la clé de la porte quand même.
Tu crois qu'il y a un moteur dans un truc alors qu'il y a.
La carcasse, c'est facile, mais la carcasse, c'est le corps. Et il a raison, il a raison.
Ah oui, j'ai raison.
Il a raison.
C'est vrai qu'il a raison. Quand tu vas.
Une voiture sans moteur, si tu vois pas la voiture, t'as l'impression, ah ouais, super. Et tu pars avec, tu donnes le chèque, je me barre, pas de moteur.
Ah d'accord. C'est...
Moi, mes enfants, ils m'ont fait la remarque. Vous savez, il y a la Michel Armanot. On ressent les Michel Armanot. Alors ce matin, ils ont déballé les Michel Armanot. Ils m'ont dit, papa, tu sais, il y a des Michel Armanot, très bel emballage, mais à l'intérieur.
Carotte.
Carotte. D'accord. Donc, il y a d'autres Michel Armanot. L'emballage n'était pas beau, mais à l'intérieur, il y a des très très bons.
Ah.
Très très bons. Enfin, des chocolats, des trucs comme ça et tout. D'accord. Mais c'est sérieux. Sans viser quoi que ce soit. Ça veut dire que non. Ça veut dire que il faut jamais suivre aux apparences.
Et ce qu'on voit, c'est trompeur.
Il faut jamais suivre aux apparences. T'as le or, t'as le Kali. T'as le or, t'as le Kali 2. Certains, tu es là, t'as un grand panier, t'as l'impression que, d'accord. Tu veux bon, t'as les chips. D'accord. Ah oui. Et c'est pour ça, le or et le Kali. C'est ce que les enfants m'ont dit. Moi, j'ai pas. C'est le or et le Kali. Alors, de la même façon, tu fais une mitzvah. Tu fais une mitzvah. Si tu fais la mitzvah sans kavana, c'est comme si tu as une énergie, pardon, un contenant, d'accord. Donc ça veut dire un récipient, sans le or qui rentre à l'intérieur, sans la lumière qui rentre à l'intérieur. Alors, dans la chassidut, on explique ça avec un exemple très simple. On dit en fait, quand on fait une mitzvah, c'est comme si on construit une maison pour Dieu. Maintenant, quand tu fais une mitzvah sans kavana, c'est comme si tu construis une maison obscure. Maintenant, j'aimerais que vous imaginiez cette pièce. Imaginez que cette pièce, j'éteins la lumière.
Il y a déjà des murs tout noirs,
déjà. Non, cette pièce, toute la pièce est là, mais j'éteins la lumière et c'est la nuit.
C'est rien.
Ah, pourquoi c'est... Non, c'est pas rien.
Ça, mais bon, mais...
Est-ce que c'est pas une pièce?
Il manque de la lumière.
Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est pas une pièce?
Oui,
c'est sûr que c'est une pièce.
Est-ce qu'on peut...
Alors, quel problème? Non, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, tout à l'heure, certains ont dit, oui, mais s'il n'y a pas la kavana, il n'y a pas de mitzvah. Non, c'est faux. Si à la kavana, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah parce que, voilà, par exemple, c'est comme si j'ai construit une maison sans lumière. Il fait noir à l'intérieur. Est-ce que c'est pas une maison? C'est une maison. C'est une maison. Mais elle est noire. C'est noir à l'intérieur. C'est obscur. D'un autre côté, si je mets que de la lumière et que j'ai pas de maison, ça sert encore moins à rien. Parce que mon but, c'est de construire une maison. Ça veut dire, Dieu, il te dit, construis-moi une maison. Alors, si tu allumes la lumière, mais t'as pas construit une maison, il te dit, bon, bah, c'est gentil pour ta lumière, mais t'as pas construit une maison, donc t'as rien fait. Par contre, si t'as fait une mitzvah, il dit, bon, c'est bon, t'as construit la maison. Où est la lumière de la maison maintenant? Faut allumer la lumière. La lumière de la maison, c'est la kavana. Je mets les tefillines, je construis une maison pour Dieu. Je mets les tefillines avec kavana, je construis une maison lumineuse pour Dieu. D'accord? Ça, c'est la différence entre le corps et la neshama. Gouf et neshama. Gouf, c'est la mitzvah. Neshama, c'est la kavana. Rappelez-vous, or et keli. La lumière et le réceptacle. Et c'est la raison pour laquelle on exige la kavana. Alors, on va avancer un peu plus loin maintenant. Mipnezé, c'est la raison pour laquelle... Pour expliquer l'importance de la kavana, Mipnezé, c'est la raison pour laquelle... Gamken nikraim amalachim beshem chayot ou behemot. On avait expliqué dans le chapitre précédent, à la fin du chapitre précédent, que celui qui accomplit les mitzvot, que par amour et par crainte d'Akadosh Baruch Hu, mais naturel, sans travailler, sans se travailler, sans s'éclairer, il ressemble à un animal. Il sert à Akadosh Baruch Hu comme un animal. D'accord? Ça peut être bien, mais c'est comme un animal. C'est la raison pour laquelle les anges sont appelés des animaux. Vous savez que les anges ont des noms d'animaux. Bien sûr. Et beaucoup, bien sûr. Regardez. Qu'est-ce qu'il dit, comme il est écrit? Yéhezkel, Ézéchiel, dans Ézéchiel. Dans Ézéchiel, Ézéchiel décrit une prophétie, il décrit une vision qu'il a vue en haut. Il raconte. Il dit, j'ai vu à droite un visage de lion. J'ai vu à gauche un visage. Il décrit comme ça des visages d'animaux. Ah, bien sûr, c'est bizarre. On se dit, mais attends, de qui il parle? Il n'y a pas d'animaux. De qui il parle? Les commentaires disent, il parle des anges. Mais pourquoi les anges sont comparés aux animaux? Quel rapport? Pourquoi les anges sont comparés aux animaux? C'est très simple. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais expliquer de quels anges il parlait. Et après, on va expliquer pourquoi il les compare aux animaux et pourquoi nous, on n'est pas comparés à des animaux. Pourquoi nous, on est mieux que les anges. Vous allez comprendre. C'est en rapport avec la kavana, évidemment. C'est la raison pour laquelle je disais, qu'il dit comme il est écrit, Ufne Arié el Ayamin, Ufne Shor me Asmol. Que chacune des chayotes, des animaux qu'il a vus, bien sûr, j'ai une image. Alors, du côté droit, elle avait le visage d'un lion, et du côté gauche, elle avait le visage d'un bœuf, d'un taureau. D'accord? Alors, pourquoi? De qui on parle ici? En fait, c'est très simple. Le visage du lion, c'est le symbole de l'ange Michaël. Parce que Michaël, il est là pour la bonté. Et le lion est très gentil. Faut pas l'énerver, mais il est gentil. Non, c'est vrai. Le lion est gentil. Le lion, c'est quelqu'un qui est de très affectif. D'accord? C'est quoi?
Et donc, il est
trop sûr
où on le sent,
ça. Ah, il faut pas l'énerver, évidemment. C'est mais il est, dans la Torah, le Arié, le lion, représente la bonté. Bonté, ça veut pas dire qu'il se fait marcher dessus. C'est pas ça. Bonté, c'est quelqu'un de bon, naturellement. Il y a des animaux qui sont méchants, naturellement. C'est-à-dire qu'ils sont méchants, qui ont envie de, le Arié, il est gentil. C'est pour ça que, dans la face de droite, du côté droit, qui on a la Pnei Arié. Le visage du lion. Ça, c'est le symbole de l'ange Michaël. Du côté gauche, Pnei Shor, c'est le visage d'un taureau. Le taureau est un animal qui est beaucoup plus coriace, beaucoup plus guerrier. Et qui ça représente? Ça représente l'ange Gabriel. Puisque l'ange Gabriel, lui, sa façon de servir Dieu, c'est Goura, le din, la rigueur. C'est pour ça qu'il est du côté gauche. Parce que la gauche dans la Torah, sans parler de politique, hein, mais bon, la droite dans la Torah représente la bonté. La gauche représente la crainte, la rigueur. Etc. Je rentre pas dans les détails parce que là-bas il parle de plusieurs types d'animaux et chaque animal qu'est-ce qu'il représente. Bon. Alors évidemment ne croyez pas que Ézéchiel a vu un lion en haut. Il n'y a pas de lion en haut. D'ailleurs au passage vous savez c'est pour ça que dans beaucoup de synagogues au-dessus du Echal il y a des formes de lion etc. C'est pour ça.
C'est pas la royauté. Hein?
Mais d'où ça vient le lion? Non mais d'où ça vient le lion? Ça vient de là. Ça vient de la vision d'Ézéchiel. D'accord? Ça vient de là le lion. Le lion c'est pas un animal cachère en plus. Ça vient de là. Alors évidemment, je suis en train de dire, en haut, il n'y a pas de lion. On est d'accord. De pareil, au passage, je rouvre une parenthèse, dans le trône du roi Salomon, vous savez que le roi Salomon, il avait fait un trône high-tech. Il avait fait un trône que chaque fois qu'il avait des marches, il avait, je crois, 30 marches, je crois, et chaque marche qu'il montait, il y avait des animaux qui bougeaient en même temps, des animaux qui étaient mécaniques. Ça veut dire que dès qu'il montait sur une marche, ça faisait avec, il y avait un système de rouage qui faisait que il y avait des animaux qui bougeaient. Qui bougeait comme pour l'accueillir. C'était bien sûr mécanique tout ça. Après ils montaient une autre marche, c'était des rouages très complexes, surtout pour l'époque, surtout pour la capacité qu'on avait à l'époque. Et à la fin il avait fait un système que dès qu'il s'asseyait sur son trône, il y avait un aigle mécanique qui venait et qui prenait une couronne et qui la mettait sur sa tête. Et ça marchait. Et il y avait que des animaux. Il a fait une représentation de lion. Qu'est-ce qu'il y avait là? Il avait là-bas le loup, il avait là-bas l'aigle, il avait l'ours, il avait des animaux comme ça.
Ah, visuellement, hein? Ça devait, quand le peuple était là, ça devait.
Ah, c'est impressionnant. Ah, c'était très impressionnant.
Visuellement, ça devait être.
Mais vous pouvez voir, ce que je vous dis, c'est que vous lisez dans les rois. Dans les rois. Dans les rois, dans les livres des rois, tout est raconté. On te raconte en détail les étapes. Et d'ailleurs, dans la Gemara raconte que ce trône du roi Salomon a fait fantasmer beaucoup de grands rois qui voulaient un trône comme ça. Personne ne savait faire ça. C'était une technologie, mais mécanique, tout mécanique, avec des systèmes de ressorts, je sais pas comment, de ressorts et de systèmes. Il fallait que les rouages soient parfaits. Tu peux pas, ça veut dire qu'il y a un système de pression, tu appuies, tac tac, etc. Après un moment, il y avait de l'eau qui coulait. Dès qu'il montait sur un truc, il y avait des animaux qui commençaient, il y avait de l'eau qui coulait. Enfin, tout un système de pompes et de trucs, etc. Avec les connaissances qu'on avait à l'époque. Avec quoi il a fait son trône? Avec les animaux. Pourquoi les animaux? Parce qu'en haut, il y a des animaux. Maintenant, bien sûr, en haut, il n'y a pas des vrais animaux. Parce qu'en haut, c'est pas matériel. Les anges n'ont pas une forme matérielle. D'accord? Cependant, pourquoi on leur donne une image d'animal? Parce que c'est un exemple. On va leur donner une image selon les animaux que nous, on connaît. C'est-à-dire, nous, pour nous, le lion représente la bonté. Donc, l'ange qui représente la bonté, on va l'appeler lion.
Et pourquoi maintenant, on n'a pas mis un bœuf de l'autre côté dans les représentations?
Moitié visage, moitié.
De qui?
Comme tu disais, de l'Echal.
Je crois qu'il n'avait pas de bœuf. Je crois qu'il n'avait pas de bœuf, le roi Salomon.
Oui, d'accord. Mais là,
il n'avait pas de bœuf. Il avait que.
Un lion d'un côté et un bœuf de
l'autre. Non, lui, il a mis que les animaux, que les animaux qui représentaient la royauté. L'aigle.
L'aigle, le roi des airs.
Bien sûr. L'aigle, le lion, etc. Des animaux qui sont. Des animaux qui l'inspiraient. Alors, pourquoi je vous parle de tout ça? C'est quand même intéressant que les anges sont comparés à des animaux. Franchement, d'abord c'est pas des animaux, on l'a dit. C'est alors quoi? Tu veux exprimer la bonté de Michaël, hein, Michaël? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux exprimer la bonté de Michaël? Tu me fais rapport avec le lion? Franchement, T'as pas trouvé un autre mot, t'es obligé de faire appel à un lion pour trouver la bonté. Ça marche pas. T'as pas dis-moi qu'il est bon, c'est tout. Pourquoi tu me compares ça à des animaux? Pourquoi on compare les anges à des animaux? Et là, écoutez ce ridouche extraordinaire qu'il va dire. Pourquoi les anges sont comparés à des animaux et nous, on n'est pas comparés à des animaux? Regardez ce qu'il va expliquer. Les filles chez Enam Ba'ale Prira. Quatre mots. Parce que les anges n'ont pas de libre arbitre. Pourquoi on les compare à des animaux? Parce qu'un animal n'a pas de libre arbitre. Si maintenant t'as un lion qui décide de devenir rigoureux, il peut pas. Si t'as un taureau qui décide de devenir bon, il peut pas. Il n'a pas de libre arbitre. Il a une nature, il est créé comme ça. Il n'a pas de préra. C'est pour ça qu'un animal peut même pas être jugé. C'est que dans la Torah, on ne juge pas un animal. On va juger le propriétaire de l'animal. L'animal, tu peux pas le juger. Parce que l'animal, il a une nature. L'animal, tu le prends, tu le mets, tu le chauffes avec un drap rouge comme ça. Il va partir, c'est fini, il est parti. Ah, mais, hein.
Excusez-moi.
Oui.
C'est pas vrai ce que vous dites.
Qu'est-ce qui est pas vrai?
Qu'on ne juge pas les animaux.
On juge pas les animaux.
Il me semble dans la Torah que, ou même dans les dynimes, par exemple, si vous aviez un taureau qui est plutôt rude, plutôt violent, ou une tendance un peu agressive et qui tue ou qui blesse, il était passé au fil de l'épée.
On l'a pas jugé. On le tue au fil de l'épée parce qu'il.
On le condamne.
Non, mais attendez.
Oui, mais c'est pas un jugement.
C'est pas un jugement. C'est pas un jugement. On le tue parce qu'il forme une menace pour les hommes.
Non, c'est parce qu'il a tué.
Non.
Ben non.
Le taureau qui a tué, on le tue pour que ça fasse pas une honte à l'homme qui l'a tué. Parce que c'est Rashi qui explique ça dans la paracha Mishpatim. D'accord? Parce qu'exactement, les gens vont dire, t'as vu, c'est le taureau qui a tué monsieur Intel. Pour ne pas manquer de respect à l'homme, le taureau, tu parles, qu'est-ce que tu lui veux au taureau? Il a une nature, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu veux qu'il se retienne? Il peut pas se retenir, c'est impossible. Il est pas responsable.
Mais s'il est pas responsable, pourquoi on le tue?
Parce qu'il forme une menace pour l'être humain.
Il a causé des
C'est clair, c'est évident.
Un chien qui mord quelqu'un, s'il est enragé, on le tue.
Est-ce que, je vous donne un exemple. Est-ce que vous pouvez juger une machine? Est-ce que vous pouvez juger une machine? D'accord. Imaginez une voiture qui a tué quelqu'un. Est-ce que vous pouvez la juger?
Excusez-moi. Prenons le cas où vous avez un taureau qui a une nature.
Ils ont pas fait l'abattage des taureaux.
Oui.
Vous avez quelqu'un?
Oui,
un jeune, un illuminé, il rentre dans l'enclos. Il se fait encore il est mort.
On tue pas le taureau, ce cas-là.
4 millions, 5 millions de canards.
On peut pas le juger, pourquoi vous voulez le juger? Il est pour rien.
Non, j'ai une assemblée, voir des cas où on
tue. Même quand on va tuer, c'est pas parce qu'on a jugé l'animal. On a tué. Parce que cet animal représente une menace pour l'être humain. Or, l'être humain est toujours prioritaire dans la Torah. Il est prioritaire sur les animaux, sur tout le reste. Ce que je vais expliquer par là. Pourquoi les anges? Parce que je vais arriver à la Kavana. Je vais arriver à la Kavana, une Kavana unique que nous, les êtres humains, peut avoir, que personne peut avoir. Ni les animaux, ni les anges. Personne. Pourquoi les anges sont comparés aux animaux? Parce que les anges, tout comme les animaux, n'ont pas de libre-arbitre. Ça veut dire que l'ange Michaël, s'il décide de devenir rigoureux, il peut pas. L'ange Gabriel dit, bon, tiens, aujourd'hui on fait une petite faveur. Allez, on va être gentil aujourd'hui. Il peut pas. Impossible. La Gemara, elle raconte. Elle dit que c'est écrit, attendez. Tout à l'heure, on va faire la Mida. Osé shalom imromav. Dieu, il fait le shalom dans le ciel. Je dis, mais attends, il fait le shalom entre qui et qui? Ils se battent en haut aussi? Non. Il fait le shalom entre l'ange Michaël et l'ange Gabriel, car ils n'arrêtent pas de se battre. Ils n'arrêtent pas de se battre. Parce que lorsque tu leur présentes une situation donnée, l'ange Michaël est programmé pour te dire « laissez-le », l'ange Gabriel est programmé pour te dire « non, il faut le punir ». Alors comme ils sont programmés et qu'il n'y a pas de libre arbitre, donc il ne peut pas changer d'avis. Il est programmé pour dire « telle situation, tel jugement, c'est tout ».
Donc il est prévisible.
Bien sûr, entièrement prévisible. Ça veut dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'ange est appelé à un être stationnaire. Pourtant, il peut avancer, il peut faire des missions pour Dieu. Mais il est stationnaire parce qu'il ne peut pas évoluer. Un ange ne peut pas évoluer. Alors qu'un homme peut évoluer. Alors pourquoi il parle de ça ici? Il dit, c'est très simple. Il te dit, en vérité, la qualité que nous avons les hommes, c'est que nous les hommes, on n'est pas comme des anges. Nous les hommes, on a un libre arbitre. Et qu'on peut faire une mitzvah, et pas seulement faire une mitzvah, on peut vivre la mitzvah, avoir la kavana de la mitzvah. Et cette kavana de la mitzvah, je peux modifier la kavana, même si moi, je sais pas forcément ma nature, parce que je pense pas à Dieu, je peux décider que même s'il y a 5 minutes, je pensais pas à Dieu, je change ma nature, et maintenant je pense à Dieu. Ça, maintenant, j'ai incapable de le faire. peut pas changer. Il peut pas changer sa nature d'il y a 5 minutes. C'est pas possible. Il peut pas. Ce qu'il est, il est. Donc là, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe lorsque tu fais une mitzvah avec kavana. Maintenant, imaginons si je fais une mitzvah sans kavana. Si je fais une mitzvah sans kavana, je suis un peu comme un ange. C'est-à-dire, je fais les choses machinalement, comme un animal, par routine. Je dis, mais est-ce que toi, tu as vécu la mitzvah? Est-ce que toi, tu as senti? Non, j'ai pas senti la mitzvah. Alors, on dit, ah, où est la qualité de l'être humain? À quel moment on peut dire que tu as utilisé ton libre arbitre pour vivre la mitzvah? Oui, tu as utilisé ton libre arbitre pour faire la mitzvah. C'était pas facile. Mais c'est beaucoup plus difficile de pas seulement faire la mitzvah, mais vivre la mitzvah. Sentir que la mitzvah t'a parlé. C'est la raison pour laquelle, dans la Torah, les anges sont comparés à des animaux, alors que nous, les hommes, on est comparés mehalchim à des gens qui avancent, qui évoluent. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, je crois que lorsque Dieu parle au prophète Daniel, je crois, il lui dit, je te ferai marcher parmi ces stationnaires. Parce qu'il a vu les anges et tout. Dieu lui a dit, je te ferai marcher parmi les stationnaires. La Gemara pose la question, mais pourquoi le prophète est appelé quelqu'un qui marche? Les anges sont appelés stationnaires. Pourtant, on sait qu'il y a des anges qui font des missions extraordinaires pour Dieu. Ils font le tour du monde, ils font des choses extraordinaires, qui bougent, sont tout le temps en train de t'avancer pour Dieu. La Gemara dit non. Elle dit, c'est vrai qu'ils font des missions pour Dieu, mais ils évoluent pas. Un ange peut pas évoluer. Et même s'il va évoluer, il va évoluer seulement dans ce qui est programmé. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une évolution qui est déjà programmée. Aujourd'hui, il est comme ça. Demain, il aura telle promotion. Après demain, il aura telle promotion. Il y a des promotions, c'est les anges. Ça s'écrit. Mais c'est une promotion qui est programmée. Imaginez quelqu'un, par exemple, tu vois, il commence un boulot. Et dès qu'il commence le boulot, t'as tout son parcours qui est écrit. Mais il est écrit. C'est-à-dire qu'il sait très bien que dans un an, il aura telle promotion. Dans deux ans, il aura telle promotion. Et il peut pas avoir d'imprévu. Il n'y a pas d'imprévu. Pas possible. Ça, même les fonctionnaires, ils peuvent pas faire ça. Tout est prévu. C'est-à-dire, tout est écrit. Et ça peut pas se passer autrement. Ça, les êtres humains, on n'est pas comme ça. Alors, c'est notre défaut et c'est notre qualité. C'est notre défaut parce qu'on doit constamment nous remettre en question et constamment on doit se reprendre. Parce qu'on peut jamais se reposer sur nos lauriers. Parce qu'on peut toujours tomber. Mais d'un autre côté, c'est notre qualité. Parce qu'on peut changer. On peut changer quand on veut. Et ça, c'est le rôle de la kavana. Le rôle de la kavana, c'est de m'aider à vivre une mitzvah. C'est-à-dire que là, l'Admor HaZaken, il te dit, et pourquoi il explique ça? Les anges, vous savez que les anges aussi ont des mitzvot. C'est quoi les mitzvot des anges? C'est quand ils font ce que Dieu a demandé. Dieu leur demande des choses.
Mais ils n'ont pas le choix.
Voilà. Ah, très bien, très bien. Voilà. Mais qu'est-ce qui leur manque aux anges? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas avoir? C'est la kavana.
Non, mais il n'y a pas
une
mitzvah.
Oui.
Une mission.
Une mitzvah, c'est quoi? C'est un ordre. Un ordre.
C'est pas simplement un ordre, parce qu'en réalité, c'est leur fonction.
Très bien. Donc ils ont respecté un ordre.
Ils ont respecté leur fonction.
Maintenant, j'ai appuyé sur le bouton de mon téléphone. J'ai appuyé sur un bouton. Il a respecté un ordre. Mais c'est sa fonction, c'est normal.
C'est une procédure.
Une procédure. Ouais. Voilà, c'est la même chose. C'est pour ça que les anges, ils ont des mitzvot. Ils font des mitzvot, les anges. Ils font ce que Dieu demande. Dieu lui dit, va là-bas. Il va là-bas. Je lui dis, va chercher ça, va chercher ça. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ange a une kavana? Est-ce qu'on peut dire que l'ange est récompensé ce qu'il a fait? Est-ce qu'on peut dire que l'ange a évolué? Non, il n'a pas évolué. Il a fait exactement ce qu'il était programmé. C'est pour ça que quand je prends un téléphone, je veux pas m'extaser devant lui, je dis, regarde, t'as vu, j'ai appuyé, il y a eu des millions, vous savez, quand j'appuie sur un bouton là, il y a des millions de transistors qui ont bougé à l'intérieur. Du circuit, etc., pour faire en sorte que quand j'ai appuyé, il y a un écran qui s'allume. Mais je suis pas en extase devant ça, parce que c'est normal, il a fait sa fonction. Si les hommes auraient voulu faire ça, il aurait fallu 10 000 hommes pour faire ça. Et la machine te fait tac, 30 secondes. Mais il a fait sa mission. Il a pas le choix de pas le faire. C'est pas, je vais appuyer, peut-être, attends, on va voir, peut-être on s'allume, peut-être on s'allume pas. Ça marche pas comme ça. T'as appuyé, il s'allume, c'est tout, c'est sa fonction. Parce que c'est une machine qui est programmée. Un ange est aussi programmé. Un animal est aussi programmé. La seule chose dans le monde qui n'est pas programmée, c'est les hommes. L'être humain.
Pour ça qu'ils sont difficiles
à gérer. Au moins pas programmés.
Ouais. On est improgrammable.
Un peu programmé quand même.
J'entendais récemment une émission politique. Vous savez, on est en France, on est dans la grande incertitude. On sait pas qui on aura comme président.
C'est très inquiet.
Et pourquoi? Mais attendez, j'ai écouté une émission quelques minutes comme ça qui expliquait. Ils disaient, mais pourquoi on est tellement inquiet? Pourquoi on est tellement incertain? Parce que vous avez 50% de la population qui savent même pas s'ils vont voter. Et même s'ils vont voter, ils savent pas pour qui ils vont voter.
Vous avez vu
samedi soir
avec Mélenchon? Mélenchon disait, il y a 50% de gens qui savent même pas ce qu'ils vont voter.
Non, moi j'écoute à la radio. Alors, il dit 50%, c'est pas pour qui ils vont voter. Et même s'ils vont voter, ils savent pas pour qui ils vont voter. Et donc c'est extraordinaire. Oui. Tu dis, mais attends, comment c'est possible? Comment c'est possible?
Ils n'ont pas le choix, hein.
Tu comprends? Alors, comment, alors ça, ça aurait pas été possible chez les animaux. Ça, ça aurait pas été possible chez les anges. Ça n'existe pas. Chez les animaux, lorsqu'on doit désigner le roi des animaux, la reine des abeilles, c'est qui tu veux, il n'y a pas de peut-être. C'est prévisible. Dieu, il a créé la machine, il te dit, c'est une science exacte. Demain, c'est lui le président. Il n'y a pas peut-être, oui ou non. Mais là, personne ne sait. Et je vais vous dire quelque part, mais ça je rentre pas dans ce sujet, même Dieu peut être surpris.
Non, je pense pas.
D'une certaine façon.
Non.
D'accord. Oui, il programme tout, mais il nous a laissé le surprendre.
Mais c'est très bien.
Il nous laisse le surprendre.
C'est très bien.
Ça, je rentre pas dedans. Je rentre pas dans ce sujet. C'est un sujet complexe.
Ah ouais, ben oui. Hein? Le livre arbitre.
D'une certaine façon, les Juifs, les Goïms n'ont pas de vrai libre arbitre. Ouais. Mais les Juifs ont un vrai libre arbitre. Kaviarol, d'une certaine façon, d'accord, je nuance, on peut surprendre Dieu. C'est-à-dire que si par exemple Dieu il a prévu que demain je fais une avéra, je peux le surprendre de ne pas la faire demain.
Comprenez-moi.
Je peux le surprendre.
Mais il sait très bien qu'on va pas la faire.
Non, je peux le surprendre. Je peux aller, mais alors, bah oui, c'est ça, c'est les grands débats, ça, Maïmonide, etc., le Rabat.
D'accord.
Ce que je dis, ça, tu le trouves que chez les êtres humains.
C'est très bien ce qu'on va faire.
Ça, tu le trouves que chez les êtres humains. Tu ne le trouveras pas chez les animaux, tu ne trouveras pas chez les malachim, chez personne d'autre. Il n'y a aucune autre, il y a aucun autre élément dans la nature qui est comme ça. Je vais vous dire plus que ça.
Ce que tu veux dire, David, c'est que quand il dit que Dieu, il sait, bien sûr qu'à la finalité, Dieu, il saura. Mais c'est comme si finalement tu joues en même temps, comme il n'y a pas de temps pour Dieu.
Oh, c'est pas si simple que ça. C'est plus compliqué. Ça.
Ah, c'est plus compliqué que ça, ouais. Mais je me dis que finalement tu as la capacité à changer, même si la finalité de Dieu, il sait. Mais...
C'est plus compliqué que ça. Regarde, imagine-toi que demain, je veux faire une faute. À 14h09.
Ouais.
Bon. Est-ce que Dieu, maintenant, est au courant que demain, à 14h09, je vais faire la faute?
Oui.
Oui. Attends, réponds à ma question. Non. Est-ce que Dieu est au courant, maintenant, que demain, à 14h09, je vais faire la faute?
Le principe, c'est que toi, tu es
au courant. Réponds à ma question. Oui ou non?
Oui.
D'accord. Donc, il est au courant.
Oui.
Donc, si demain, à 14h09, je décide, je ne vais pas fauter.
Oui.
Je ne peux pas décider de ne pas fauter, parce que Dieu, il sait déjà que je vais fauter.
Eh bien, je peux quand même décider.
Hein, tu me dis?
Oui,
d'accord.
Oui.
Alors, comment, donc je suis bloqué. Donc demain, 14h09, je dois fauter. Puisque c'est écrit depuis la création du monde qu'à 14h09, Mendy Assouline doit fauter.
Donc si je ne faute pas, Hacham, il sait que je ne vais pas fauter.
Que les deux étaient.
Mais quoi qu'il sache, c'est écrit. Alors si c'est écrit, alors quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il a écrit deux options? Il a dit bon, alors 14h09, oui. ou ça?
Ouais.
Mais alors oui, mais attends, mais il sait ce que je vais faire.
Oui.
Alors il sait ou c'est pas?
Donc c'est écrit.
C'est-à-dire que finalement, à chaque avéra, il y a deux options.
Donc il ne sait pas ce que je veux choisir.
Il y a deux histoires.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Dieu ne sait pas quelque chose?
Mais il sait très bien ce que tu vas faire. Non, mais lui, il sait déjà ce que je vais faire.
Est-ce que Dieu, il était au courant pour le 6-1?
Bien sûr que oui.
Mais là, il n'y a pas que Dieu qui était au courant. Les entraîneurs, ils étaient au courant.
Les Marseillais, ils étaient au courant.
Pourquoi nous l'a pas dit avant? Il y avait trop de joueurs. Il y en a trop qu'on mise.
Moi, je suis pas amateur de foot, mais j'ai
C'est passé un miracle. Pour certains, c'est une catastrophe, mais pour les autres, c'est un miracle. Et c'est pas programmé, ça.
Mais
c'est
programmé. Bien sûr qu'il n'y a pas de l'argent. Bien sûr qu'il n'y a pas de l'argent dans le jeu.
Bien sûr,
c'est programmé. Il y a des tocards.
C'est une arnaque. Okay, d'accord.
Bon, on va pas voir.
Ceci dit, on est à 4 niveaux.
Le 4 c'est pas un miracle, c'est du tennis.
C'est la fonction.
Oui.
C'est la fonction à la 4e. Est-ce que la fonction, elle ne peut pas être plus puissante et augmentée d'un cran avec ce qu'on a aujourd'hui? Bah, tu parlais du téléphone, tu appuies sur une touche, il y a des...
Alors, quelle fonction? Oui.
Tu disais qu'il faudrait des centaines ou des milliers de personnes pour faire cette touche-là.
Oui.
C'est-à-dire qu'on est devenu plus puissant. Donc, on peut monter d'un cran. Ce que je veux dire par là, c'est que maintenant, du fait que Dieu il a créé, là, il est là-haut, deuxième rang, troisième rang, quatrième rang, est-ce qu'on peut monter d'un cran pour aller vers Dieu?
On peut pas. Parce que dès qu'on quitte la matière, on s'envole. Non. Dieu, les quatre niveaux sont là. Quand vous prenez un tzaddik, par exemple, comment c'est que le tzaddik, comment ça se fait que le tzaddik, il arrive à parler avec Dieu et moi, j'arrive pas à parler avec Dieu? Parce qu'en vérité, Dieu, il nous parle tout le temps. Selon nous, on est tellement matérialiste que du coup, on n'arrive pas à capter. Le tzaddik, lui, si vous voulez, il essaye d'être le moins possible au niveau numéro 4, au niveau de l'action, au niveau du matériel. Il essaye d'être au-dessus. d'être au-dessus au niveau de la formation, etc. Et donc, moins tu es dans l'action, et plus tu arrives à capter quand Dieu il nous parle à tous. Dieu, il nous parle maintenant, à chacun, il nous parle. Mais nous, on capte pas parce qu'on est dans le matériel. Alors, tu mets un rideau. Ben, bien sûr, à la fin, tu captes plus rien. T'as pas de réseau après. Mais en vérité, Dieu, il dit, moi j'envoie le signal, moi. C'est toi qui captes pas. D'accord. Bon, je veux revenir à. Si ça vous dérange pas, je veux revenir à. Ah bah oui. Si ça vous dérange pas, je veux revenir à l'idée que j'ai envie d'expliquer. Akadosh Baruch Hu, il a tout prévu. Tout est prévu. Il sait parfaitement tout ce qui va se passer. D'accord. Et a priori, rien ne peut surprendre Akadosh Baruch Hu. Mais nous les hommes, avec notre libre arbitre, on peut surprendre. Nous, pas bluffer. J'ai pas dit bluffer. Mais en tout cas, on peut se surprendre. C'est-à-dire, tu peux te retrouver à faire quelque chose qui est contre ta nature. Un ange est incapable de le faire. Un animal est incapable de le faire. Une montagne est incapable de le faire. Un oiseau est incapable de le faire. Une neshama qui est déjà au Gan Eden est incapable de le faire. Une neshama au Gan Eden qui dit, tu sais quoi, je vais venir m'écrire maintenant. Impossible, tu peux pas. Il peut plus. Il est verrouillé.
Il n'y a pas de corps.
Il est verrouillé. C'est-à-dire, ça veut dire que le seul endroit dans le monde.
C'est ici.
Le seul endroit dans tout l'univers. Matériel et spirituel. Dans lequel on a un libre arbitre. Dans lequel.
C'est dans ce monde.
On peut changer le cours des choses. C'est uniquement dans ce monde. Vous imaginez ce que je viens de vous dire? Ça veut dire que dans tout ce qui a été créé, même Rabbi Shimon Bar Yochai au Gan Eden. Il dit, je vais décider. Il peut pas. Il est bloqué.
Pourtant, on demande qu'ils intercèdent.
N'importe quel. Oui. Intercéder, il peut. Toujours un peu.
Ils ont les possibilités de faire quelque chose.
Il peut prier.
Mais en notre faveur à nous, mais pas en sa faveur prier. À lui.
Non, bien sûr, c'est pour nous.
Mais, voilà. Mais est-ce que quelqu'un qui est en haut, d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle en haut, on peut plus faire de mitzvot. Voilà. On peut plus faire d'avérot. Parce qu'à quel moment, il est question de mitzvah? Il est question de mitzvah, comme disait Michael tout à l'heure, d'ailleurs, je le titre. Il est question de mitzvah lorsque tu avais le choix de dire non. Donc là, t'es récompensé. D'accord? Mais si t'as pas le choix de dire non, t'es pas récompensé parce que c'est normal, tu l'as fait. Vous comprenez? Je prends par exemple la bouteille. Je vais verser du coca. Bravo, Colacava. T'as vu, le coca, il était là. Il aurait pu rester là. Et maintenant, il était très gentil. Il est descendu dans mon verre. Colacava, le coca, merci beaucoup. Mais il a fait sa fonction. Il avait pas le choix de dire non. Donc, on peut pas parler ni de récompense, ni de musée d'Avera. Par contre, s'il avait un libre arbitre, s'il avait une possibilité de dire oui ou non et qu'il a dit oui, là, on peut le récompenser. Le seul endroit dans le monde, dans lequel, le seul endroit dans l'univers entier, dans lequel on a un libre arbitre, c'est dans le monde de l'action. Maintenant, vous comprenez que quand on comprend ce qu'on vient d'expliquer, si moi je me mets à accomplir une mitzvah, machinalement, mécaniquement, animalement, on te dit, baba, t'as rien compris. Ça, les anges savent le faire aussi. Les animaux, ils savent le faire aussi.
On sait pas.
Tu comprends? C'est Dieu. Ça veut dire, un animal aussi, il peut prendre des lanières et les mettre sur son pied.
Oui, mais c'est Dieu qui a accès à ces choses-là.
Quelle est la différence entre toi et l'animal? Vous comprenez? Maintenant qu'on comprend ce qu'on a expliqué depuis le début du cours, on comprend que ce qui donne, la valeur ajoutée de l'homme, c'est quoi? Aujourd'hui, quand on est dans le business, on parle beaucoup de valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée de l'homme? C'est son libre arbitre. Donc, c'est sa kavana. C'est ça sa valeur ajoutée.
C'est sa seule raison d'exister.
Parce que tout le reste, c'est ça le faire. Et sur quoi je suis jugé? Sur ma kavana.
Bien sûr.
Est-ce que j'ai eu la kavana ou j'ai pas eu la kavana? C'est ça que je suis jugé. Alors, celui qui n'a pas la kavana, on lui dit, la mitzvah, tu l'as faite. On ne dira pas qu'elle l'a pas faite. La maison, tu l'as construite pour Dieu. Mais si t'as pas compris, t'as pas allumé la maison, à quoi ça sert? C'est comme si t'as fait une maison avec des super tableaux, mais là, il n'y a pas de lumière.
Il y a un peu de kavana quand tu fais une mitzvah. Parce que quand tu fais une mitzvah, obligatoirement...
Il y a un choix. Il y a une décision. Tu as raison. Mais c'est limite, c'est très, très... C'est un film.
Quelqu'un qui est né dedans...
C'est bien. J'ai pas dit que c'est très bien. C'est bien. C'est un bon début. Mais tu comprends que sans la kavana, on est quand même à côté de la plaque.
Mais c'est dur quand même.
Est-ce qu'on va expliquer la kavana avec autant de détails?
Écoute, la kavana, c'est pas compliqué. D'accord?
Avec autant de détails que l'introduction elle-même.
Bien sûr, on va expliquer les autres choses. La kavana, c'est pas compliqué. La kavana, c'est essayer de vivre ce que je fais.
D'accord.
Ah oui.
D'accord, mais là tu l'as résumé.
Moi j'étais, comment c'était leur match là, mercredi soir c'était. Non, c'était quelle soir c'était. Moi j'étais chez moi à la maison, je suis en train d'étudier. J'entends un moment, waouh. Après j'entends 3 minutes plus tard, waouh.
Je me suis dit, c'est. Il a pleuré.
Non, mais des cris comme ça, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qu'il.
Après, il y avait des drapeaux de l'Algérie.
D'accord. Tu dis, mais attends, tu dis, mais attends.
Ça finit toujours pareil.
Est-ce qu'une personne, lorsqu'il y a une mitzvah, il va crier comme ça, waouh. C'est compliqué, il n'y a pas. Je vais essayer d'illustrer ça avec, d'illustrer l'idée qu'on a expliquée avec une histoire. Une fois, et je vais terminer avec ça pour aujourd'hui.
C'est Dan, ton voisin ?
Non, c'est pas Thierry.
Oh, oui.
Oh.
Là, il a pu télé, il a cassé.
J'étais étonné, j'ai levé dans les bras, j'ai dit, j'entends, waouh. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ok. Alors, je vais terminer avec une histoire. Une histoire pour illustrer la qualité des êtres humains, la qualité que nous avons, que personne d'autre a à part nous. Une fois, il y a un enfant américain qui est rentré en yéhidout chez le rabbi. En entrevue privée chez le rabbi. Vous savez, les Américains, ils sont très cash. Et donc, c'est un enfant qui a grandi dans l'abondance américaine, surtout à l'époque, d'accord. Il a posé une question au rabbi. Il a dit, rabbi, comment ça se fait que chaque mitzvah que je veux faire est tellement difficile? Je dois me galérer grave. Alors que pour tout le reste, pour le matériel, c'est facile. En Amérique, c'est large. Pourquoi pour la mitzvah, je dois tellement me galérer? Alors, vous savez, le rabbi, regardez comment le rabbi répond. Oui, il rentre dans la neshama de la personne. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Il pose la question à l'enfant, il lui dit, est-ce que tu as un hobby?
Hobby,
qu'est-ce que tu aimes? Alors non, enfin il a répondu, il a dit, j'aime beaucoup le dessin. Et surtout, j'aime beaucoup les grandes peintures. Les grands peintres. Picasso, qui voulait, etc. Alors, le rabbi lui pose la question, il lui dit, et quelle est la peinture que tu aimes le plus, qui t'a le plus marqué? Alors l'enfant, il répond, il dit, il y a un peintre très connu qui s'appelle Picasso, d'accord? Et il a fait une peinture qui a été vendue, ça fait quelques temps, à 12 millions de dollars. Je sais pas de quelle peinture il parle, je suis pas dans le domaine, d'accord? C'est lequel?
C'est celui que t'as donné, celui que t'as offert à Michael hier.
Ah, d'accord. Ok. Non, parce que je vais vous dire, moi je connais pas ce tableau. Alors le rabbi lui pose la question, il lui dit, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Peut-être que vous allez reconnaître ceux qui sont amateurs. Il dit, bien sûr qu'on voit. Il dit, qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Alors l'enfant, il répond, il dit, dans ce tableau, on voit le soleil en train de se coucher au bord de la mer. Et on voit les rayons rouges du soleil en train de se coucher comme ça, qui passent par, alors je vous lis les détails ici, qui passent derrière une montagne, d'accord? Et donc d'un côté on voit les rayons qui transpercent la montagne et la mer de l'autre côté. Et il dit, c'est une vision extraordinaire, c'est une peinture extraordinaire, qui est vraiment époustouflante. Et les 12 millions de dollars, ça les vaut pour cette peinture. Très bien. Alors, le rabbi, écoutez la question du rabbi. Le rabbi dit, et si je vais aller maintenant, moi, au bord de la mer, alors que le soleil est en train de se coucher, je prends avec moi un appareil photo.
Tu prends une photo?
Avec moi un appareil photo. Et je prends une photo du soleil en train de se coucher avec exactement
le même
paysage. D'accord? D'après toi, à quel prix je pourrais vendre cette photo? Alors l'enfant, bon, il voulait un peu taquiner le rabbi. Il a dit, si rabbi c'est vous qui le faites, certainement vous pourrez vendre cher la photo. Mais si c'est moi qui le fais, je la vendrai un quater, c'est un quart de dollar, quoi. D'accord? Ça, c'est la réponse de l'enfant. Alors le rabbi continue, vous savez, il amène l'enfant dans le temps. D'accord? Il lui dit, mais dis-moi, entre la photo que je ferai ou que tu ferais au bord de la mer et le dessin de Picasso, lequel est le plus précis? Lequel est le plus fidèle à la réalité?
La photo.
Alors, il dit, bien sûr. Il dit, mais Rabbi, c'est sûr, c'est la photo. La photo est beaucoup plus fidèle. Alors il dit, mais Rabbi, je comprends pas. Alors Rabbi dit, mais je comprends pas. Comment ça se fait que la photo qui est parfaitement fidèle à la réalité, tu vas la vendre un quater, alors que le dessin de Picasso, qui est très beau, mais qui n'est pas parfaitement fidèle à la réalité, il a été vendu 12 millions de dollars. Comment ça se fait? Il y a un problème. Alors l'enfant, il répond, il dit, mais c'est incomparable. Il dit, c'est vrai que la photo est beaucoup plus précise. Mais c'est une photo. C'est une photo qui est morte. qui va me raconter ce qui s'est passé là-bas, mais c'est une photo qui est morte. C'est-à-dire, c'est une photo, c'est quelque chose, c'est figé. Alors que Picasso, avec son don, sa faculté, il a réussi à trouver les points lumineux de ce paysage et à les éclairer, à leur donner. Enfin, je suis pas trop dans l'art de la peinture, mais c'est-à-dire dans la peinture, c'est comme dans la musique, hein, musique, on connaît ça beaucoup aussi. Ça veut dire qu'il a réussi à donner un sens, une vie. Dans la scène, il a donné de l'importance à certains éléments et il les a expliqués. Il les a traduits, il les a dessinés, il les a présentés d'une certaine façon. Il les a projetés, Razak, d'une certaine façon. D'accord ? Ça, c'est pour cette puissance, ça vaut les 12 millions de dollars. Alors le rabbi, il se tourne vers l'enfant avec un sourire. Il lui dit, tu viens de donner la réponse à ta question. Tu m'as posé la question, tu m'as dit, mais pourquoi j'ai tellement de mal à faire les mitzvot ? Les malachim, les anges, ils n'ont pas de difficulté à faire les mitzvot. Ils n'ont pas d'yetzer hara. Chez eux, tout est facile. Ils ont un cerveau extraordinaire parce que les anges ont une compréhension. Ils ont une compréhension extraordinaire, d'accord. Ils ont une crainte naturelle de Dieu automatique, d'accord. Ils sont constamment en train de louer à Kadosh Baruch Hu. Mais avec ça, combien ils valent les anges? Quelques pièces. Pourquoi ils valent quelques pièces? Parce que c'est une photo.
Fidèle.
C'est tout. C'est fidèle, très bien. C'est fidèle à la réalité. Mais il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas de travail. Alors qu'un juif, dans ce qui est dans ce monde, avec toutes les difficultés, le juif n'atteindra jamais la précision d'un ange. Jamais. C'est impossible. Il n'atteindra jamais la précision de la photo. Jamais il n'atteindra. Mais par contre, le juif, il va donner son explication. Ça veut dire que, il va dire, voilà, moi, cette mitzvah qui me parle. Et le juif, il va donner son cachet. La couleur. Il va donner une couleur particulière, unique, qu'il n'y a que moi qui peux faire. Que personne d'autre au monde, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, personne n'a donné cette couleur, ce mélange, cette composition de mitzvot. Personne ne l'a fait comme moi j'ai fait. Ça, un ange est incapable de le faire. Ça, il n'y a qu'un homme qui peut le faire. Il lui dit, c'est la raison pour laquelle une mitzvah est difficile à faire. Comme Picasso. Tu crois que Picasso, il a réussi du premier coup son dessin?
Non, Picasso n'est pas juif.
Mais c'est un exemple.
Dès lors où il a réussi.
Non, mais si on était capable de
Picasso, ah, c'est ça
de donner de la chose.
Et il est où, le bord de la mer?
Il est juif, mais
c'est lui, le premier.
Apparemment, ce serait ça, le dessin. Comment il s'appelait le dessin?
Par exemple, t'as dit Picasso.
Il a dit les rayons rouges.
Comment il s'appelle?
Pourquoi il s'appelle
Picasso? Il faut voir la mer d'un côté, apparemment. Enfin, c'est ce que l'enfant a décrit au rabbi. Après, je sais pas si.
Comment s'appelle le tableau?
Ce sera toujours le deuxième, mais jamais le premier.
Il s'appelle 12 millions.
Non.
Voilà, hein. 12 millions de dollars.
Je vais mettre la peinture. Il y a des pays où ils refusent tous les tableaux de maître.
Pour 30 balles.
Picasso.
Pas pour 30 balles.
Même pas, mais c'est 30 balles. C'est ça, de leur.
Voilà. Bon, alors, très vrai. Sachez que nous sommes des peintres.
Picasso.
Nous sommes pas des photographes. D'ailleurs, au passage, même la photographie, c'est un art. Savoir mettre en valeur. Mais c'est un art.
C'est un gros,
mais c'est rien par rapport à l'art de dessiner. Quand tu dessines,
c'est quelque chose.
Et alors ça, c'est ce que je voulais retenir d'aujourd'hui. L'importance de la kavana. Lorsqu'on fait la kavana, c'est un petit peu comme une peinture. Bon, maintenant, je voudrais terminer pour reprendre l'exemple du rabbi. Et on va terminer avec ça pour aujourd'hui. Imaginez que vous avez un peintre qui prend les pinceaux. D'accord? Qui ferme les yeux et qui laisse ses mains dessiner, qui a une machine qui le dirige et qui est bon, il va dessiner.
Ça existe.
Ça peut exister.
Ça n'a pas de charme.
Il dit, baba.
Si, c'est du charme. Non, c'est un robot.
C'est, où est ta kavana ici?
C'est un robot pour plaisir.
Où est ta kavana? Il y a une kavana derrière. Tu sais, moi, je comprends beaucoup dans les peintures. Des fois, tu vois des gens qui. Bon, il y a des Picasso que tu arrives à comprendre, mais il y a des fois des Picasso, tu comprends rien. Tu comprends rien du tout.
Quand tu vois les tableaux de maître, tu vois.
Et t'as les gens. Non, mais moi je comprends pas. Parce que j'ai pas. Non, bah attendez.
Tu vas sur le truc, ils vont t'expliquer.
Voilà. Mais quand tu vois, quand tu vas avec un guide, une fois, j'étais comme ça. Quelqu'un, un guide, il m'a expliqué. Quand tu vas avec un guide, tu dis, regardez, dans ce dessin, il y a ça. C'est là que tu vois que le bonhomme, il fait parler quelque chose, il fait parler une image. Ça, c'est un art. Ça, c'est un art que nous avons.
C'est en 3D.
Maintenant, si tu le fais sans kavana, voilà, c'est comme si c'était un tableau que tu as fait sans kavana. C'est la kavana qui fait le tableau. C'est la kavana. T'as pas de kavana. T'as la mitzvah, mais t'as pas la kavana, t'es passé à côté. Bon. À méditer, mais c'est un déchet, on continue la semaine prochaine sur la kavana avec encore pas mal de choses. Vas-y.
Les anges, dès lors où ils sont dans les cieux, ils sont quand même présents. Ils ont été dans les cieux avant de venir au monde.
Oui, mais ils n'ont pas de libre arbitre.
Ils peuvent communiquer.
Ils n'ont pas de libre arbitre.
Pourquoi? Mais c'est des âmes, c'est des neshamot.
Ils n'ont pas de libre arbitre.
Ah.
Ça veut dire, il peut pas.
Ils peuvent parler,
ils peuvent pas décider. Il peut parler, mais il peut pas décider.
Aucune fonction. Une fonction.
On peut pas choisir.
Un qui guérit.
Nickel.
Il y a un qui. Est-ce que lui, il s'occupe de lui?
Chacun.